Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, quel privilège de pouvoir bénir et glorifier notre précieux et merveilleux Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Daniel au chapitre 6, où nous lirons ensemble les 11 premiers versets. Daniel chapitre 6, verset 1er. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous ne trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement !» Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. Nous relisons les versets 10 et 11. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. Pour donner le titre suivant, la prière exemplaire de Daniel. Il faut considérer qu'à ce moment-là, Daniel était un homme âgé. Il était quelque part un monument de vertu, de sagesse, de piété et d'intelligence. Sa renommée était tellement extraordinaire qu'on l'a établi comme premier ministre dans 2 gouvernements successifs et opposés. Donc, dans 2 empires opposés. Il a été premier ministre du temps de Nebuchadnezzar, et puis il a été premier ministre du temps des Mèdes et des Perses, donc du temps où Darius a été le souverain. Donc c'était le peuple, enfin plutôt la réunion des peuples qui avait renversé l'empire de Nebuchadnezzar. Hein, imaginez la chose. Mais on voit que cette renommée, que ces qualités reconnues, s'étaient fait connaître progressivement. Dans une vie longue de piété, de service et de fidélité. Déjà au verset 4, nous lisons, on ne trouvait chez Daniel ni négligence, ni erreur. Vous savez, la piété, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a besoin de persistance et de persévérance. Et je relève juste cette anecdote qui a été donnée par une personne qui était allée visiter en Égypte, les pyramides d'Égypte, donc. Voilà ce qu'elle donne comme témoignage. Et elle dit, elle était là, la plus vieille pyramide du monde. Il était étonnant de penser qu'Abraham avait pu très probablement contempler ce monument 4000 ans auparavant, lorsqu'il était en Égypte. Notre groupe écoutait attentivement l'égyptologue qui nous donnait tous les détails historiques concernant ce gigantesque édifice. Nous étions fascinés. Mais lorsqu'elle mentionna un détail particulier, tous les yeux se rivèrent sur quelque chose de brun qui n'était pas de la pierre. Notre guide expliqua, ce sont des poutres de bois de cèdre qui ont été débitées au Liban, transportées ici par bateau et qui se sont maintenues pendant 4000 ans sans pourrir. Il est difficile de croire que ce bois ait pu résister aux assauts du temps pendant 4000 ans. Je pensais immédiatement à un verset de la Bible où Dieu nous compare à des cèdres. Les justes croissent comme les cèdres du Liban, c'est dans le psaume 92. Hein. Et pourquoi Dieu nous compare-t-il à cet arbre? Eh bien parce que c'est un arbre à croissance lente, au bois particulièrement dur et extraordinairement résistant. Même lorsqu'on enfouit ce bois dans le sol, il est préservé de la pourriture pendant des millénaires. En outre, c'est un bois qui n'est pas vulnérable aux agressions des termites. Et lorsque Dieu nous compare au bois de cèdre, ne veut-il pas dire par là que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de raccourci, hein ? Nous, nous voudrions souvent avoir tout tout de suite, mais notre croissance et notre développement spirituel, ça prend du temps. Hein ? Comme le cèdre, de la même façon, vous savez, je ne voudrais pas être un arbre qui grandit trop rapidement. Je préfère être comme le cèdre. Je veux devenir solide, ferme, afin de pouvoir résister aux assauts du temps et ne pas être affecté par la décadence de ce monde dans lequel nous sommes et qui nous montre, lui, tellement souvent des signes de corruption et de pourriture. Donc voilà, eh bien, que le Seigneur nous aide chacun à être patient pour lorsque notre développement spirituel doit prendre du temps. Et merci au Seigneur de ce qu'il veut nous rendre des personnes qui sont capables de résister au déclin et je dirais aux morsures quelque part de notre époque. Et voilà, donc Daniel, eh bien, c'était ça. C'était ça, bien sûr, de la meilleure manière, de la façon la plus recommandable possible. Et vous pouvez considérer que Daniel, lorsqu'il a agi, n'a pas manqué d'agir dans cette circonstance-là avec la plus grande sagesse. Lorsqu'il a su que le décret du roi était écrit, eh bien, bien sûr, il s'est mis devant Dieu. Il s'est mis devant Dieu pour savoir comment il devait réagir. Et puis, comme Dieu lui avait donné de cette sagesse, ben, il lui a donné un cerveau dont il s'est servi, à ce moment-là, avec sagesse. Ça a été bien pesé. Donc, ça veut dire que les décisions qu'il a prises étaient bien pesées. Il a réfléchi aux raisons pour lesquelles les événements en étaient arrivés à ce point-là. Il a réfléchi à ce que ses adversaires voulaient faire, parce qu'il n'était pas naïf, Daniel. Il a bien réfléchi à ça. Il a réfléchi aux grandes lignes de l'attitude qu'il lui fallait adopter, comme aux plus petits détails. Il a réfléchi aux conséquences que ça allait avoir, probablement. Et puis, il a réfléchi aux enjeux qu'il y avait, aux enjeux spirituels, mais aussi aux enjeux politiques, je dirais, qu'il y avait, que ça aurait pour lui, que ça aurait pour son propre peuple, que ça aurait aussi pour l'Empire, et que ça aurait même pour ses ennemis. Donc, il a réfléchi à tout ça. Et quand il a eu tout bien pesé, bien réfléchi, tout bien remis devant le Seigneur, qu'il a agi exactement comme il l'a fait. Et ça nous montre qu'il avait réfléchi à chacun des détails de son comportement. Et nous, on a peut-être appelé ça des détails, mettre les mots détails entre guillemets, parce que nous voyons que dans cette situation-là, il était prêt à risquer sa vie, parce qu'il savait qu'il risquait sa vie. Donc, et que pour cet homme sage, si sage, il ne s'agissait pas de détails. Mais au contraire, il s'agissait de choses très importantes. Et il est bon que nous puissions aussi nous considérer son témoignage, considère en particulier la façon dont il a prié, la façon dont il a géré les choses dans cette situation. Alors, que pouvons-nous dire à ce sujet? Déjà, dans ce verset 10, il est marqué qu'il s'est retiré dans sa maison. Il n'est pas allé à la campagne, il n'est pas allé se mettre au vert, il n'est pas allé se cacher dans un refuge secret, il n'a pas cherché cela du tout. Il aurait certainement pu demander des vacances à Darius, j'imagine, le temps que cette situation délicate s'évacue un petit peu, mais il va dans sa maison. Il va là où il a le plus d'autorité spirituelle, quelque part. Donc là aussi où il est un exemple pour les fidèles, parce que Daniel n'était pas tout seul, il y avait des tas de gens qui le regardaient. Et tant de membres de son peuple qui étaient dans le désarroi à ce moment-là, pour beaucoup, à cause de cet édit que le roi avait fait mettre en route. Donc, et il était, lui, le point de mire, et les gens de son peuple le prenaient comme un repère spirituel, un repère quant à la façon de faire, et ils le savaient. Et c'était, bien sûr, le lieu de la présence de Dieu que cette maison, non pas à cause de la maison, mais à cause de lui, hein, que de ce qu'il y pratiquait. C'était quelque part l'ambassade du ciel ici-bas. Hein, et c'était dans ce lieu aussi où il est allé, où il avait eu de si grands exaucements, de si grandes bénédictions et de si grandes protections dans le temps passé. Amen. Première chose. Donc, il s'est retiré dans sa maison. Ensuite, il se dit qu'il priait dans la chambre supérieure. Il priait dans la chambre haute. Pourquoi faire ? Bien, pour manifester, bien sûr, le désir d'élévation de son âme. C'est de cette façon qu'il avait l'habitude de prier. Et ça nous rappelle aussi une autre grande chambre haute, souvenez-vous, hein, où il y a eu cette bénédiction de la Sainte Seine. Donc ça, c'était au dernier jour, avant la crucifixion de notre Seigneur. Hein. Et dans cette grande chambre aussi haute, où ils se sont réunis ensuite à 120 pour attendre ce que le Seigneur avait promis, donc la venue du Saint-Esprit. Et en tout cas pour lui, Daniel, c'était ce lieu qu'il réservait à la prière, qu'il réservait à la louange et qu'il réservait aussi en même temps à la méditation de la parole de Dieu. Lorsque vous lisez par exemple au chapitre 9, vous voyez bien que Daniel avait cette habitude. Donc, lorsque vous lisez là, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Je vis par les livres. Quels livres ? Bien sûr, c'est ceux de la parole de Dieu. Donc, il avait l'habitude de méditer, d'étudier la parole de Dieu en même temps qu'il priait. Et je dirais que la méditation de la parole de Dieu fortifiait sa prière et sa prière fortifiait son encouragement à la méditation de la parole de Dieu. Et pour nous, c'est la même chose. Hein. Notre prière, elle a besoin de la parole de Dieu comme soutien. Hein. Par les promesses qui sont contenues, par la façon dont le Seigneur veut nous aider à saisir les choses, hein. Et en même temps, c'est vrai que, ça nous encourage encore également à prier. Nous voyons aussi qu'il priait, il dit, avec les fenêtres ouvertes. Ces fenêtres étaient ouvertes vers le ciel, hein, pour bien montrer au Seigneur qu'il n'y avait aucun obstacle, et il voulait qu'il n'y ait aucun obstacle entre lui et donc le ciel, entre son âme et le ciel. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il voulait garder toujours la crainte du Seigneur dans son cœur, il voulait garder toujours la conscience de la présence de Dieu dans son cœur, le fait qu'il était devant Dieu, qu'il marchait devant Dieu, et qu'il vivait devant Dieu, et puis aussi pour manifester son désir que Dieu puisse lui parler en toute liberté et sans obstacle, et que lui aussi puisse s'adresser de la même façon à son Dieu, librement et de tout son cœur. Amen. Et nous avançons et voyons encore une quatrième chose, c'est qu'il priait dans la direction de Jérusalem. Alors pourquoi cela ? Hein ? Mais ça veut dire que sa prière, ce n'était pas juste quelque chose qui partait comme ça dans le vague, ce n'était pas quelque chose de global, ce n'était pas quelque chose de général et d'inconsistant, ce n'était pas ça. Sa prière, c'était quelque chose de précis. Hein ? Sa prière, il y avait une grande cause qui dirigeait sa prière. Cette grande cause terrestre, c'était quoi son grand but ? C'était le retour à Jérusalem. Parce qu'il savait que ce retour à Jérusalem, ce n'était pas un but en soi, mais c'était de cette manière-là que les prophéties allaient pouvoir s'accomplir, prophéties que le Seigneur lui avait révélées en grande partie, hein, nous le voyons, et puis que c'est de cette manière-là aussi que plus tard, le Seigneur allait manifester cette gloire sur la terre. Mais il fallait pour cela que le peuple d'Israël retourne avant à Jérusalem. Donc il priait, il luttait dans ce sens. Il avait pour son intercession des objectifs précis, des objectifs et des supplications qui étaient en même temps des objectifs spirituels, mais qui étaient puissants, avec l'idée aussi qu'il allait continuer avec persistance et persévérance jusqu'à ce que l'exaucement soit obtenu. Vous savez, les prières de Daniel ont dépassé la longueur de sa vie, pourtant il a vécu longtemps. Les prières de Daniel se sont accomplies plus tard, des années plus tard. Hein, mais lorsque vous lisez, par exemple, le livre d'Esdras et de Néhémie, vous voyez qu'effectivement, ça a été dans ces situations-là, dans ces occasions-là, que des interventions puissantes de Dieu se sont accomplies pour que ce peuple puisse revenir dans ce pays, ce qui n'était pas du tout gagné d'avance. Hein. Dieu l'a exaucé des années après sa mort. Et ça, c'est... Alors, il l'a exaucé pendant sa vie déjà, mais je veux dire, pour cette grande cause-là, en tout cas, nous voyons cela. Hein. Et ses prières ont été importantes, et ses prières ont été nécessaires dans cet objectif-là, dans ce but-là. Vous savez, nous vivons pour des choses qui nous dépassent. Nous vivons pour des choses qui vont plus loin que nous. Nous vivons pour des choses qui doivent durer après nous. nous devons prier et lutter aussi pour, bien sûr, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont présents autour de nous, pour que le Seigneur puisse les attirer à lui, par exemple, hein, ou les soutenir dans leurs besoins du moment. Mais il faut avoir dans notre cœur une grande cause qui nous dépasse. C'est important, ça. Hein, Daniel, il avait ça dans son cœur. Et nous voyons qu'il priait, il dit aussi, 3 fois par jour. Il le faisait pourquoi ? Non pas par obligation, non pas par l'égalisme qu'il s'était imposé, mais par conscience et par rappel à tout son être combien il avait besoin de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, combien il avait besoin des directions de Dieu, combien il avait besoin du conseil de Dieu dans toutes les occasions et dans toutes les situations qui se présentaient dans sa vie. Qu'il avait besoin d'être conscient de sa dépendance de Dieu. Et il voulait persévérer en cela. Et je retrouve encore une autre petite anecdote. Hein, c'est quelqu'un qui dit « Ma lampe de chevet était allumée depuis des heures, mais mon livre était si passionnant que je n'avais pas vu le temps passer. Minuit avait sonné depuis longtemps, il était vraiment temps de dormir. J'appuyais sur l'interrupteur et la pièce fut instantanément dans l'obscurité. Mais pas tout à fait. Les aiguilles et les chiffres verts fluorescents de mon réveil brillaient encore avec une telle intensité que je pouvais voir les contours du livre que j'avais posé sur la table de nuit. Je me tournai donc de l'autre côté et m'endormis bientôt. Cependant, ce que j'avais lu pendant la soirée faisait son effet et me maintenait dans un demi-sommeil. Je me réveillais au bout de quelque temps. Quelle heure était-il ? Je m'étirai en direction du réveil que je pouvais encore apercevoir dans l'obscurité. Il était 3 heures. Il était encore temps de dormir. Je fermais de nouveau les yeux en direction du pays des rêves, mais je n'arrivais pas à trouver un sommeil profond. Je me sentis tout à coup parfaitement éveillé, m'assis dans le lit et tentais de voir quelle heure il était. Où était le réveil ? J'essayais d'apercevoir le cadran dans la nuit, mais les aiguilles et les chiffres luisaient maintenant si faiblement que je ne parvenais pas à voir qu'il était 5 heures du matin. Il me fallut quelques instants pour comprendre. L'intensité lumineuse des aiguilles fluorescentes diminue avec le temps. Lorsque la lampe de chevet était allumée au-dessus du réveil, les aiguilles, dynamisées par cette énergie, renvoyaient un vert particulièrement lumineux. Mais après que j'ai éteint la lampe, l'effet de la lumière diminua progressivement jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Il en est de même dans nos vies. Il en est de même dans nos vies, si nous ne puisons pas régulièrement, je dirais, l'énergie, si on peut parler comme ça, hein, en tout cas la force, ou le secours que Dieu met à notre disposition par sa présence, alors aussi notre rayonnement dans le monde va s'évanouir. Hein, et la question peut se poser, est-ce que nous rayonnons ? Est-ce que je rayonne comme Christ dans ce monde parce que je passe du temps avec le Seigneur ? Ou bien est-ce que mon rayonnement est moins perceptible parce que je passe moins de temps dans la prière, moins de temps dans la parole de Dieu ? Hein, vous savez, recharger nos batteries spirituelles, ça ne se fait pas autrement que dans la communion du Seigneur, frères et sœurs. Hein, nous avons besoin de nous rappeler continuellement cela. Et la 6e chose que nous voyons, qui est décrite dans notre verset 10 toujours, c'est qu'il se mettait à genoux. Il se mettait à genoux. Et certains vont dire « Oh, mais l'attitude physique n'a pas d'importance, etc. » Mais il y a des situations dans lesquelles l'attitude physique a de l'importance. Et il y a aussi des positions physiques qui peuvent aussi manifester ou nous aider à une disposition spirituelle. Hein, je ne dis pas là encore qu'il faut imposer cela en tout lieu et en tout temps. Mais en tout cas, lorsqu'il est là à genoux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà qu'il montre son humiliation, son humilité devant Dieu. Et puis en même temps, ça montre aussi son esprit de lutte et de combat spirituel. Et puis ça montre que, eh bien, il n'a pas seulement envie d'obéir à Dieu en théorie, d'obéir à Dieu juste dans ses pensées, même si ça a évidemment toute son importance, mais il veut obéir avec son corps. Il veut obéir dans son corps. Et lorsque vous lisez d'ailleurs tout le livre de Daniel, je ne vais pas m'étendre trop longuement sur le sujet, lorsque vous lisez tout le livre de Daniel, vous voyez que l'obéissance du corps, c'est quelque chose qui a vraiment une importance primordiale. Hein. Rappelez-vous, lorsque Daniel était jeune, il est marqué qu'il résolut de ne pas se souiller en mangeant la nourriture qui était apportée aux idoles. Hein, donc, et il nous a expliqué comment il est allé voir... Quand il est allé voir le fonctionnaire qui s'occupait de lui, et comment le fonctionnaire donc babylonien à ce moment-là, qui s'occupait de lui, et comment il a réussi à le gagner, comment il a mangé finalement que des légumes, nous a-t-il expliqué, et puis qu'au bout du compte, eh bien, ils avaient meilleure mine, lui et ses amis, parce qu'ils étaient quatre à ce moment-là, meilleure mine donc que les autres qui prenaient ces nourritures qui leur étaient attribuées régulièrement. Donc déjà, vous voyez, au niveau physique. Rappelez-vous aussi, lorsque le roi Nebuchadnezzar, un des prédécesseurs de Darius, avait fait construire cette immense tour, cette immense statue donc d'or, et que tout le monde devait se prosterner devant cette statue. Eh bien, on ne dit pas où Daniel était à ce moment-là, mais en tout cas, ses amis, avec lesquels il était dans le même état d'esprit, la même disposition, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé de se prosterner, parce que l'attitude du corps avait pour eux une importance spirituelle. Donc, ils ont dit, on ne se prosternera pas. Certains auraient dit, mais écoutez, vous n'avez qu'à vous prosterner, et puis dans votre cœur, vous pensez autrement, mais eux, non. Ils disaient, ah non, c'est pas possible. La vie spirituelle, c'est un ensemble. C'est pas juste des idées, c'est pas juste des pensées. C'est l'obéissance du corps aussi. L'obéissance du corps qui est indispensable. Et voilà, et nous retrouvons la même situation dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce que Daniel est à genoux, et lorsque les adversaires vont arriver, remarquez bien ce qui est dit dans le passage, ils vont arriver tumultueusement. Donc ça veut dire qu'il les a entendus arriver de loin. S'il avait voulu, il aurait très bien pu se relever et faire semblant de rien. S'il avait voulu, eh bien il n'aurait pas pu le surprendre en train de prier. Mais il était en train de prier. Il était en train de prier et il a tenu bon dans cette attitude-là, parce qu'il a dit « Je ne vais pas me laisser déranger par des hommes alors que je suis devant Dieu. » Voyez-vous ? Et nous voyons que c'est parce qu'il avait cette attitude d'obéissance dans son corps, d'obéissance physique, c'est aussi pour cela que le Seigneur est intervenu miraculeusement dans la suite du passage donc, que nous ne pouvons pas lire aujourd'hui. Et puis, vous voyez une dernière chose encore de ce point de vue-là, c'est qu'il est marqué qu'il priait et qu'il louait Dieu. Il priait et il louait. Il y avait la prière et il y avait aussi la louange, parce que les deux choses vont ensemble. Prière et louange vont ensemble. Il faut un esprit de prière, un esprit de supplication, un esprit d'intercession et un esprit de demande. Ça, c'est la prière. Et il faut un esprit de louange. C'est un esprit de remerciement, d'adoration et de bénédiction. C'est ça qui nous fait aller de l'avant. C'est ça qui nous fait marcher. Ce sont les deux jambes qui nous font avoir, obtenir, gagner les victoires dans la foi et dans l'intercession. Un esprit de prière et un esprit de louange. Amen. Et voilà, en conclusion, bien, qu'est-ce qu'on peut dire ? Cette citation d'un prédicateur. Il a dit un jour, ce prédicateur, « Il y a trois points dans mon sermon. 1. Tout être humain doit être quelque part. 2. Bien des gens sont là où ils n'ont rien à chercher. 3. Ceux qui sont là où ils ne devraient pas être se retrouveront un jour là où ils n'aimeraient pas être. » Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est à méditer. Mais Daniel, lui en tout cas, il savait où il était. Il a été là où il fallait qu'il soit, en train de faire ce qu'il devait faire, et c'est à cause de cela que le Seigneur l'a puissamment béni et secouru. Que Dieu nous aide à considérer son modèle et à nous confier à notre Seigneur pour chacun, chacune aussi, dans la position où nous sommes, agir de façon semblable. Béni soit notre Dieu. Amen. Alléluia. Te remercions, Seigneur, c'est vrai, nous avons là encore des encouragements, nous avons là encore des indications précieuses quant à la bonne façon de prier, Seigneur, quant au bon état d'esprit à avoir dans la prière et dans la foi. Merci, Seigneur, dans des périodes de difficultés, même de crise, comme celle que Daniel traversait à ce moment-là. Et merci parce que tu étais fidèle et parce que tu l'as secouru admirablement, Seigneur. Et merci parce que tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur. Et tu es toujours le même, tu ne le changes pas. Et merci parce que nous aussi, eh bien, avec ton secours, eh bien, nous voulons prier et te louer de la même manière. Merci Seigneur notre Dieu. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelques annonces. Voilà, je vous rappelle la prédication et le témoignage en ligne. Donc, c'est vendredi à 20h15 sur le site de l'Église. On continue comme ça pour l'instant. L'évangélisation samedi dans les villages, donc boîte aux lettres, rendez-vous ici à 14h30. Le culte dimanche à 8h30 et 10h45. Inscrivez-vous dès que possible pour y participer. Voilà. Et à partir de mercredi prochain, donc la réunion de prière reprend à l'ancien horaire, 20h15. Donc il n'y aura pas de réunion de prière à 16h mercredi prochain, mais à 20h15. Donc, puisque le couvre-feu repoussé à 23h, mais mercredi prochain aussi, Nous avons la reprise de l'école du mercredi pour les enfants d'âge scolaire, pour lesquels il y a un rendez-vous l'après-midi, donc ici à 14h. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.